Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission À nous le futur. Mon nom est Claude Saint-Gérard, nous avons une belle émission. C'est Pierre Flynn qui chantait Marcher tout seul. Mais c'est vrai que marcher, on marche tout le temps tout seul, mais on peut marcher ensemble aussi. D'ailleurs, le 2 mai, j'ai su qu'il va y avoir une activité au Parc Victoria. C'est du Shinrin-yoku. Vous connaissez ça sûrement. Hein? Shinrin-yoku, c'est des Japonais qui ont inventé le terme, là, mais... Avant qu'ils aient inventé le terme, on faisait ça. C'est qu'on marche dans la forêt, puis on peut écouter le silence, écouter la nature, puis même faire des étreintes à des arbres. Alors, donc, on peut marcher ensemble. Et puis aujourd'hui, on a deux entrevues. Et je vais quand même faire une introduction avant les entrevues. Premièrement, pour vous dire que hier soir, j'ai assisté à un atelier d'écriture appelé « Atelier vert et blanc ». Écrire en vert, écrire en blanc, atelier d'écriture géopoétique. Alors, c'est super intéressant. Il y a quelqu'un qui a fait une conférence d'à peu près 25 minutes. Et je l'ai rencontré, la personne, c'est Suzanne Champoux-Miller-William. Et je vais avoir une entrevue avec elle à un moment donné. OK? Fait que soyez à l'écoute pour ça. Puis, après ça, j'ai assisté à une assemblée générale de l'ASEV, Association citoyenne d'espace vert de Sherbrooke. Ici, nous avons CEVES, CVES, Coalition étudiante, virage écologique Estrie. Mais les gens de CVES prononcent ASEV, mais moi, j'étais à ASEV, c'est A-C-E-V-S, hier soir. Alors, c'était super. Et j'ai appris qu'il y avait un sous-comité qui s'appelle le comité Marie-Reine, qui espère protéger un boisé. Et puis, bon, bien, c'est ça. Fait qu'allez voir ça, ACEVS, le site Internet, là. Il y a eu une conférence de M. Gabriel Grenier sur les forêts anciennes. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Forêts anciennes », justement. Et il existe, vous pouvez vous le procurer à la librairie à Appalaches. J'espère qu'un jour prochain, ce sera à... la librairie de la bibliothèque municipale de l'Université de Sherbrooke ou bien Eva Sénécal. Fait que, par ailleurs, je voulais vous parler de... Tu sais, on a besoin de parler de paix ces temps-ci. Alors, Willis Armand, je vous ai déjà parlé de ce monsieur qui a écrit « Higher Creativity ». Pour lui, le summum de la créativité, c'est créer la paix. Et puis, il a fait une sorte de définition de la non-paix qui est super intéressante. La non-paix, c'est les armes conventionnelles et les armes nucléaires. C'est aussi les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud, les inégalités dans les pays riches. Et voilà, puis c'est la nature non respectée aussi. Fait que c'est ça, la non-paix. Et puis, dans son livre, Une nouvelle vision de la conscience transforme le monde, M. Harman, qui était ingénieur, qui a été président de l'Institut des sciences noétiques, cet institut qui était... qui avait pour mission d'étudier scientifiquement la conscience. Je vous ai déjà dit que cet institut-là a été créé par Edgar Mitchell, un ancien astronaute, qui a éprouvé une sorte d'extase en regardant le cosmos par le hublot du LEM qui faisait le tour de la Lune. Et puis, revenu sur Terre, il a décidé de faire un institut pour l'étude de la conscience, dont M. Harman, de qui je tiens un livre en ce moment, a été président. Et puis, je voudrais vous donner tout de suite une couple de citations très intéressantes. Voici la première. « La force de ce livre réside précisément dans la profondeur et la clarté de la vision du changement, ou en parenthèse de paradigme, en cours. Et il nous invite à forger en nous-mêmes des scénarios positifs du futur, car, nous dit Willis, ces scénarios positifs poussent l'humanité dans la bonne direction. » Je voulais vous dire ça parce que c'est un peu ce que j'essaie de faire à cette émission, tu sais, communiquer des visions du futur positif. Alors, enlever toute légitimité à la guerre. En cet âge nucléaire, nous sommes tous virtuellement favorables à la paix. Cependant, nous n'avons pas tous la même compréhension de ce mot et certains associent la paix à la sécurité nationale. Quelle que soit la façon choisie par la communauté mondiale pour aborder la problématique de la paix ou plus spécifiquement la prévention d'une guerre nucléaire, cette tâche doit être effectuée avec 100% de fiabilité. Rien de moins ne sera suffisant car le monde ne peut se permettre une guerre nucléaire. On revient vite à la réalité quand on se rend compte que ce type de fiabilité n'est exigé dans aucun autre domaine de l'expérience humaine. Alors, je tourne la page. Soyons plus spécifiques dans notre définition d'une paix pratique. Cet objectif doit inclure au minimum la délégitimisation de la guerre et de la préparation à la guerre en tant qu'instrument d'une politique nationale. Entre parenthèses, ici Sherbrooke qui a commencé son DEFSEC devrait penser à ça, là. L'interdiction de toutes les armes de destruction massive et de massacres collectifs et l'engagement résolu des nations les plus puissantes à mettre en commun leur souveraineté afin de créer et de soutenir une institution suffisamment efficace pour garantir le maintien de la paix et la résolution non violente des conflits. Bien qu'il soit devenu à la mode aux États-Unis de dénigrer les Nations unies, la charte de cette organisation de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 se classent parmi les documents politiques les plus nobles de l'histoire de l'humanité. Alors, je vais terminer mes citations de ce livre-là ici. « Une nouvelle vision de la conscience transforme le monde » de Willis Harman. Je vous suggère d'essayer de lire ça, soit en prêt entre bibliothèques ou dans votre bibliothèque préférée. Et Willis Harman, dans son livre « Higher Creativity » dont j'ai déjà parlé, disait des choses pour nous aider à s'orienter, là. Premièrement, il fallait dire non à la guerre. Deuxièmement, dire oui à la transformation de la société. Troisièmement, c'est faire son travail intérieur. Il voulait dire changer ses croyances. Par exemple, nous qui croyons que la guerre, c'est nécessaire, là, il fallait se donner une nouvelle croyance que la paix globale est possible et que rien de moins n'est tolérable. Et quatrièmement, il suggérait de faire son travail extérieur, une sorte de bénévolat dans un organisme de notre choix. Alors ça me fait penser au livre de Serge Mongeau. C'est parce que la paix n'est pas une utopie, le titre de ce livre-là. Puis je trouve que ce dont il parle, c'est à peu près ce dont parle Willis Harman aussi. Par exemple, dans le chapitre premier, consacré à la paix, il parle de la paix intérieure, puis de la paix sociale. Et il parle de l'urgence d'agir, à nous d'agir, dit-il. Et puis, il dit que c'est important de faire la paix avec soi, puis faire la paix autour de soi et de changer la société. Donc, c'est tout ça très proche de Willis Harman, Higher Creativity. Alors, Serge Mongeau, parce que la paix n'est pas une utopie, c'est vraiment une lecture intéressante à faire. Alors, j'ai trouvé un livre, je l'avais dans ma bibliothèque personnelle, c'est de Christiana Figueres. Ça s'appelle « Inventons notre avenir » et je trouve ça super important, là. Elle dit, un nouveau récit collectif. Nous avons deux choses importantes à vous dire. Tout d'abord, il faut savoir que même si nous nous y prenons très tard, nous pouvons encore choisir notre avenir et donc que toutes les actions entreprises aujourd'hui peuvent compter. Ensuite, nous sommes capables de diriger notre destin et de nous engager sur la bonne voie. Nous ne sommes pas condamnés à un avenir terrible et nous ne sommes pas des êtres intrinsèquement mauvais et incapables de nous attaquer aux grands problèmes qui nous assaillent. Alors, ce livre-là est à la bibliothèque Eva Sénécal. C'est très important à lire, à mon avis. Et puis, j'ai un petit livre intéressant, c'est « Petites conversations entre plantes, leur stratégie secrète pour s'adapter, communiquer et se reproduire ». Je vais vous lire d'un extrait d'une tomate qui jase avec des légumes tout près d'elle dans le jardin, là. Fait que la tomate est un peu choquée parce qu'elle dit « Je ne suis pas un légume ». Ça commence comme ça. « Hé, au secours, il y a sûrement un malentendu, ce n'est pas ma place ici. Je vous en prie, hurle la tomate désespérée. Chut, arrête avec ce boucan, ça ne sert à rien de t'agiter, de toute façon, personne ne t'entend. La rabroue courgette. « C'est vrai, ça ne servira à rien, confirme Concombre. » Tomate, de plus en plus rouge d'inquiétude, ne les écoute pas et continue de hurler. Détends-toi, ma puce, t'es là maintenant, tu ne sortiras que si tu es assez belle, intervient Aubergine. J'ai pas envie d'être ici, je sais bien que je sortirai d'ici avant vous. Je proteste parce que ce n'est pas ma place ici, c'est pour mon tomate. Mais de quoi tu parles? S'enquiert là-dessus d'un ton aimable. C'est toi qui me poses la question, répond Tomate en s'agitant encore plus. Regardez ce maudit panneau, regarde-le par toutes les graines. Qu'est-ce qui ne va pas? Demande Patate intriguée. Il y a écrit légumes, nom d'une pipe. Je suis un fruit. Moi, je devrais être sur l'autre étal avec les prunes et les pêches. Un instant de silence, suivi d'un grand éclat de rire. Vous l'avez entendu? Elle dit que sa place est ici, ricane pêche. Vous imaginez ça? Une tomate sur les étalages de fruits? Je vais fondre en confiture tellement je me fends la poire, s'exclame Abricot. Alors, ça continue comme ça, genre 250 pages. C'est super intéressant, c'est une bonne idée. Des récits de légumes et de fruits entre eux et elles. Eh bien, également, cette semaine, j'ai vu dans la page de Raymond Bouchard, Facebook, un article qui s'appelle « Un ovni est apparu, un conseil des régions ». Ça, c'est après l'élection de Mme Fréchette à la CAQ. Il dit « Un détail du cabinet Fréchette a peu fait parler des journalistes. Il s'agit de la création d'un conseil des régions dirigé par le ministre Mathieu Lévesque, lui-même rattaché au vigoureux ministre des Affaires municipales Serge Poulin. Ce conseil, qui devra se réunir aux deux semaines, est composé de 18 députés représentant les 18 régions administratives, parmi lesquels seulement deux sont des ministres. Comme je suis un mordu de décentralisation politique régionale et locale, ça ne m'a pas échappé. L'idée est bonne, mais sa composition est pour le moins paradoxale. » Alors là, il continue, je ne vous lis pas tout. Voici que vers la fin, il dit « Le gouvernement québécois a réussi avec les années à dépouiller les citoyens de tout pouvoir politique. Je souligne souvent que beaucoup de réalisations de la Révolution tranquille sont issues du puissant Conseil ou Office de planification économique du Québec, OPDQ, créé en 1961. Ce conseil était composé de citoyens spécialistes du développement et avait comme mission de formuler un plan global pour le développement du Québec. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a un plan d'urbanisme à Sherbrooke. Là, il y a des consultations ce soir à 6 heures à l'hôtel de ville. Alors, M. Raymond Bouchard dit « Le chemin est encore long si on veut revenir à la souveraineté politique du peuple, à la démocratie en somme. Nous subissons les effets de cette concentration du pouvoir chez les élus avec l'engorgement bureaucratique de nos gouvernements et leur coupure des besoins des citoyens. » Alors, ici à Sherbrooke même, il y a Rêve nourricier qui existe, des gens qui réfléchissent à l'agriculture locale, biologique. Alors, il y a un bulletin de nouvelles qu'ils donnent, là. Vous pouvez vous abonner à ça, c'est gratuit. Alors, ils disent, « Le circuit nourricier est de retour pour une cinquième fois. » Parlant du circuit nourricier, il sera de retour cet été pour une cinquième édition. Rêve nourricier collabore depuis 5 ans avec la ville de Sherbrooke pour dynamiser les jardins de quartier et transmettre les savoirs. Alors, je vous suggère de lire ça, de vous abonner à ce bulletin-là. Et puis, une petite nouvelle que j'ai eue de Josiane Bertrand d'Oxfam. C'est un communiqué de presse qui était sous embargo jusqu'au 27 avril. Alors, on peut le dire maintenant. Le titre, c'est « Les géants du pétrole gagnent près de 3 000 $ par seconde pendant que la crise énergétique s'aggrave. L'opinion publique peut accélérer la transition au lieu de forer davantage. On dit que les profits sont concentrés sur les ultra-riches et Total Énergie a refusé d'adopter un plan de transition vers la neutralité carbone aligné sur l'objectif de 1,5 degré. Alors, il suggère aussi de taxer les riches pollueurs qu'ils appellent les politocrate. Je vous rappelle le titre de l'article, c'est « Les géants du pétrole gagnent près de 3 000 $ par seconde pendant que la crise énergétique s'aggrave. » Donc, elle parle de Total. Là, j'ai retrouvé un article de la FEUS, de la Fédération des étudiants de l'Université de Sherbrooke. Ça s'appelle « La FEUS dénonce le partenariat de l'Université de Sherbrooke avec la pétrolière Total Énergie. » C'est du vieux stock, là, une couple d'années. 2023. Mais bon, c'est ça, je vous parlais de ça parce que j'ai parlé de Total tout à l'heure. Alors, il y a un article aussi qui s'appelle « Transition injuste, reprendre en main l'avenir énergétique face au colonialisme climatique ». Je vous redonne le titre pour que vous puissiez le trouver. C'est « Transition injuste, 2 points, reprendre en main L'avenir énergétique face au colonialisme énergétique. C'est probablement Oxfam qui a écrit ça. Là, je ne le trouve pas spontanément. Mais on y parle également d'inégalité sociale, d'oligarchie, et que les sols abritent 70 % des réserves mondiales de minéraux en transition. Alors, il faut s'occuper de ça. Il faut réfléchir à ça. Et puis, ici, à Sherbrooke, la solidarité populaire Estrie. Vous savez que le 1er 2 mai, il y a une grève sociale. Alors, allez voir dans Internet, là. Mobilisation sur plusieurs fronts, grève sociale à l'horizon. C'est Solidarité populaire Estrie qui publie ça. Et puis, vous savez que les artistes pour la paix, ça existe. Ça fait 43 ans que ça existe. Le secrétaire, c'est Pierre Jasmin, qui est un pianiste professionnel international. Il agit comme secrétaire. Puis moi, au conseil municipal, j'ai déjà demandé à la ville de signer un appui au traité international contre l'interdiction des armes nucléaires, là, le TTIAN, traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Les artistes sur la paix sont venus me soutenir. Alors, je les en remercie. Fait que ça existe. Et puis, depuis ce temps-là, mais je suis un nouveau membre du conseil d'administration. Fait que c'est pour ça que je parle des artistes pour la paix aujourd'hui, là. Puis je vous dis également que les 1% des plus riches émettent autant de CO2 que les 2/3 de l'humanité, nous dit Oxfam. Alors, croyez-le ou non, c'est déjà le temps d'une publicité. Vous êtes à l'écoute de À nous le futur. Je vous reviens dans un instant. Alors, bonjour, nous sommes À nous le futur et nous allons commencer une entrevue avec Mme Nathalie Papillot. Bonjour Mme Papillot, vous m'entendez? Alors, vous êtes de l'Association pour la santé publique du Québec?
Oui, exactement, chargé de dossier en santé et climat.
OK. Fait que, tu sais, je vous appelle à propos de l'article qui a paru dans la presse du 18 mars. C'est David Suzuki qui disait que les environnementalistes ont essuyé une lourde défaite. Fait que moi, ça m'a insécurisé beaucoup. L'ASPQ, l'Association pour la santé publique du Québec, comment elle a réagi par rapport à cette nouvelle-là?
D'abord, je tiens à souligner que David Suzuki, c'est une figure reconnue dans le milieu environnemental et bien au-delà, là, de la santé incluse. Puis pour bien des gens, y compris ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il a permis de comprendre les connaissances scientifiques accessibles et fascinantes. Donc, moi, au niveau de le morceau de défaite, je trouve que ce qu'on peut tirer des réflexions de David Suzuki, c'est pas parce qu'on perd une bataille qu'on peut dire qu'on a perdu la guerre. En fait, c'est que la sensibilisation à elle seule, elle n'est pas suffisante pour motiver l'action environnementale. Puis il faut être capable plutôt de le lier à soi, aux autres et outiller les décideurs. Puis je pense que c'est vraiment dans cette optique que la santé est un discours qui peut davantage résonner avec les gens parce que c'est lié à la vie quotidienne. Puis à l'SPQ, c'est vraiment ce qu'on fait là en mettant de l'avant le rôle crucial de l'action climatique pour la santé et le bien-être des Québécois.
Mm-hmm. L'article mentionne qu'on a déjà dépassé le seuil de 1,5 degré d'augmentation au-dessus des niveaux pré-industriels. Vers quel futur va-t-on, selon vous, en termes de degrés, là? 1,5 ou encore plus?
Bien, en intégrant toutes les promesses internationales de faire mieux, en ce moment, les températures mondiales grimpent près de 2,6 % avec plusieurs séries de points de bascule irréversibles, si on veut, là. Mais ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que plus on retarde l'action ou qu'on la réduit, plus on va à des augmentations élevées et donc des conséquences élevées. Alors que si les gouvernements agissent aujourd'hui et investissent massivement, bien, on reste à une augmentation plus faible. Donc, tout dépend vraiment de l'action des gouvernements. Puis au Québec, Uranos estime qu'avec un scénario d'émissions élevées, là, entre d'autres mots, peu d'action, on peut s'attendre à des hausses de température annuelles de 2 à 3 degrés d'ici 2050, puis 4 à 6 degrés d'ici 2080 dans le sud du Québec. Donc, plus on dépasse le seuil de 1,5, plus les conséquences sont graves sur l'environnement, sur l'économie, les finances publiques, sur la santé. Puis c'est ce qui est projeté en ce moment.
Mm-hmm. Et vous, l'ASPQ, l'Association pour la santé publique du Québec, vous réagissez. Vous avez lancé en décembre dernier la campagne Santé-Climat. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette initiative?
En fait, la campagne Santé-Climat appelle à l'audace politique. Faire de la santé et de la prévention un pilier stratégique de la lutte climatique, c'est une conviction qu'on porte et qui s'appuie aussi sur les résultats d'un sondage léger réalisé à l'automne auprès des Québécois. Donc, selon ce sondage, près de 70 % des Québécois ont déclaré avoir déjà ressenti les effets des fortes chaleurs sur leur santé au cours des 5 dernières années. Et plus de 74 %, donc les trois quarts des Québécois qui se disent préoccupés par la qualité de l'air. Donc, la campagne, elle va venir plutôt outiller les décideurs puis valoriser les bénéfices de l'action, tant pour la santé que l'environnement. Puis ça illustre en fait notre souhait d'agir ensemble pour un Québec plus résilient, sain et équitable face au changement climatique.
J'imagine que dans votre site Internet, vous avez des précisions sur la campagne Santé-Climat.
Totalement. Donc, en fait, il y a deux thématiques sur lesquelles on travaille beaucoup. La première sur les chaleurs à travers un droit à la fraîcheur, puis un second au niveau de la qualité de l'air. Donc, vous pouvez trouver des ressources à ce niveau-là, des initiatives qui se font déjà dans les municipalités québécoises au Québec, puis aussi dans le reste du Canada et à l'international pour inspirer les acteurs, puis justement outiller les décideurs avec des politiques qui existent, qui montrent que c'est faisable, puis qu'au Québec, on a tout à bénéficier de ces exemples-là.
La mauvaise qualité de l'air, souvent on voit des chiffres qui ne sont pas toujours les mêmes. Là. Combien de morts prématurées ici au Québec sont causent la mauvaise qualité de l'air?
Oh, ben, annuellement, là, on estime avec Santé Canada 4300 décès prématurés par année attribuables à une mauvaise qualité de l'air. Là. Ça peut être des sources diversifiées, le transport routier, les industries. Donc, il y a quand même plusieurs sources qui viennent dégrader la qualité de l'air. Puis ça peut affecter la santé, notamment au niveau respiratoire. Plus on a des concentrations élevées ou plus on est proche des sources de pollution, plus on est affecté. Puis il y a aussi des groupes qui sont plus vulnérables justement à ces effets-là, les jeunes enfants, les personnes aînées, les personnes qui ont déjà des maladies chroniques. Donc, pour vraiment prendre soin de ces personnes-là puis réduire les polluants de l'air à la source pour éviter de dégrader voilà, notre qualité de l'air qui est quand même, somme toute, bonne au Québec.
Mm-hmm. Et Mme Papillot, vous avez parlé un peu du rôle du gouvernement, mais le rôle du citoyen, que devrait-il être selon vous?
Et en plus du gouvernement, le citoyen est aussi un... le rôle de s'assurer que ses intérêts et sa santé soient protégés. Puis c'est sûr qu'au final, l'impact le plus grand va être resté au niveau politique. Donc pour le citoyen, ça passe par le vote, la pression publique, la mobilisation. Puis aussi, surtout, je pense que c'est important de le souligner, de prendre soin les uns des autres. L'entraide, c'est vraiment un moteur puissant qui est encore trop souvent mis de côté. Donc de voir un voisin, des personnes aînées, juste faire un appel à nos proches, aux gens de notre communauté pour s'assurer s'ils ont besoin de quelque chose quand il y a des fortes chaleurs, quand il y a justement un épisode de mauvaise qualité de l'air, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, puis de prendre soin de notre communauté ensemble.
OK, c'est une bonne idée. Finalement, en conclusion, est-ce que vous avez un message supplémentaire à ajouter ou vous avez dit ce qui est nécessaire de savoir pour l'Association de la santé publique du Québec?
Peut-être juste réitérer qu'en fait, les changements climatiques, ça va frapper vraiment ceux et celles qui sont déjà vulnérables puis que leurs réalités sont encore trop souvent invisibles dans nos politiques publiques. Notre campagne vise justement à rendre visibles ces angles morts et à comprendre comment le climat, la santé, puis les inégalités se croisent, comment nos politiques peuvent devenir plus inclusives, plus justes pour prendre soin de soi et des autres. Puis, peut-être que j'inviterai aussi les gens qui nous écoutent à visiter le site de la campagne santéclimat.org pour en savoir plus.
OK, c'est gentil. Je vous remercie beaucoup. Alors, on peut conclure là-dessus. Madame Papillot de l'ASPQ, l'Association pour la santé publique du Québec. Merci beaucoup, madame. Bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne
Bonjour.
Journée.
Bon, alors, c'est Claude Saint-Jean à nous le futur. Raoul Duguay, ma mère lui a enseigné à Val-d'Or. puis, ça arrête là les relations entre lui et moi, à part de le faire jouer. Fait que on commence une deuxième entrevue avec Madame Nadja Gay de la Corderie. Et puis, Éa Toupin, vous allez nous parler du transport, n'est-ce pas?
Exact.
Oui, exactement, d'un projet de transport qui s'inscrit dans un projet global qui s'appelle un réseau d'entraide nourrissant qui est financé par le Fonds québécois d'initiative sociale sur 4 ans. Puis c'est la Corderie des Monts et des Lacs, secteur Sherbrooke, qui s'occupe de ce projet-là. Puis je vais laisser Éa parler plus de la partie transport.
Oui, oui, exact.
OK, OK,
mais
d'accord.
Avant, c'est ça, moi, je suis le stagiaire à Nadja, à la Corderie.
OK.
Puis la Corderie, là, c'est vraiment un réseau d'entraide entre les citoyens puis les membres.
Oui.
Pour que, justement, tu sais, au lieu de payer pour un service, on échange des services entre nous comme on le ferait avec un ami, genre. Fait que c'est vraiment... c'est des services gratuits qu'on s'échange. En fait, on accumule des heures dans une banque. Fait qu'après, on peut les échanger puis tout ça.
C'est la banque de Sherbrooke.
De quoi?
C'est la banque de Sherbrooke, pas la
oui,
banque
de Montréal. Oui, c'est ça. C'est comme une petite banque, là. Okay. Mais c'est pas avec de l'argent, c'est ça. Mm-hmm. Nous, c'est vraiment... Le temps, c'est de l'argent, puis c'est littéralement de l'argent, le temps, là, en tout cas. Mm-hmm. Ouais, fait que ce projet-là... c'est vraiment pour assurer une certaine sécurité alimentaire aux gens les plus vulnérables. Mm-hmm. En gros, on vise à accompagner par du transport les personnes qui n'ont pas de voiture ou qui ont des problèmes de mobilité pour qu'ils puissent aller faire leur épicerie ou aller chercher leur dépannage alimentaire, en fait, plus facilement. Ouais.
Alors, est-ce que vous payez le billet d'autobus?
Ben en fait, c'est on leur offre, nous, avec nos membres de la corderie, on les mobilise, puis tout ça. Puis avec les personnes qui sont intéressées, ces personnes-là accompagnent dans leur voiture les personnes qui en ont besoin, en fait, c'est ça.
OK. Fait que ça demande beaucoup de communication, finalement.
Oui, vraiment.
Et c'est peut-être pour ça que vous avez M. Thibault, un informaticien
oui, c'est ça.
À la corderie qui aide les gens à arranger leur téléphone.
Exact.
oui, exactement, pour qu'ils puissent s'inscrire au projet transport. Okay. C'est vraiment du jumelage entre deux personnes.
Exact.
C'est ça, une personne
c'est toujours
qui a
la même
véhicule,
personne.
Puis une autre qui n'en a pas, puis qui a le besoin d'aller faire son épicerie ou chercher son dépannage alimentaire. Mm-hmm. Fait que ça peut être une maman avec son enfant. Puis là, les deux personnes s'entendent une fois par semaine ou une fois ou deux semaines.
C'est ça.
La personne qui reçoit doit débourser 50 sous du kilomètre pour le service.
Ouais.
Puis on jumelle par quartier. Donc,
exact.
Ça fait que ça ne revient pas trop dispendieux. Là, pour, mm-hmm. Ça crée des liens aussi.
C'est ça.
Je gage qu'il pourrait arriver que l'enfant montre à la mère à faire des textos.
Ah, c'est ça. Peut-être.
mais souvent, ça se passe beaucoup plus par téléphone, par exemple.
Tu sais, ouais, OK, par la voix.
Puis tout ça, là, fait
oui, okay.
Souvent, c'est plus par téléphone. Puis c'est plus simple aussi de discuter de vive voix. Là. C'est quand tu es disponibilité, puis je serais disponible à tel moment pour que faire l'épicerie. En tout cas,
ouais,
à la corderie, on valorise plus le téléphone qui est...
Ouais.
Le texto.
Ouais. Vive voix. Ouais. Vive voix, c'est avant les courriels.
Oui, c'est ça.
Il y a un retour.
Exact.
Fait que c'est quoi le titre là, de ce travail-là que vous faites sur le transport? Là?
Ça s'appelle Un réseau d'entraide nourrissant.
OK.
Puis, c'est une escouade transport justement pour accompagner les gens. Là.
Bon, d'accord. Ouais.
Présentement, on a 10 jumelages en cours et d'autres qui s'en viennent. Puis, on a bien sûr besoin de gens qui voudraient offrir ce service-là. Ça peut représenter une heure par semaine ou par deux semaines.
Ouais,
ça va être vraiment très aidant parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont à 2 km de l'épicerie, mais on imagine que si on fait l'épicerie deux fois par mois, ben, c'est bien trop gros tout ce qu'on a à rapporter.
C'est ça.
Donc là, ça prend un service comme ça. Ouais. Puis on travaille avec des organismes aussi qui peuvent avoir besoin de gens pour aller reconduire les familles qui sont venues chercher des dépannages alimentaires.
C'est
parce
ça.
Parce que ça aussi, c'est...
Tout comme dernièrement, on a réussi à jumeler une accordeur, en fait. Mm-hmm. Accordeur, c'est le nom qu'on donne à nos bénévoles, mais en fait à nos membres.
Mm-hmm.
On a réussi à jumeler une membre avec un organisme pour que les personnes de l'organisme, les usagers, puissent aller faire leur épicerie à Communaction, en tout cas, juste en bas de la Kingston.
Okay.
C'est une épicerie solidaire, en fait.
Okay.
Pour l'instant, ça marche bien. J'ai pas eu trop de nouvelles, mais je pense que en tout cas, ça s'enligne bien.
Fait que cette dame-là va accompagner des jeunes qui fréquentent le tremplin 1630, puis va les amener à l'épicerie solidaire où ils vont pouvoir, oui, acheter des produits vraiment à prix très, très abordable, mais aussi rencontrer des intervenants qu'il y a sur place, puis parler des différents services qui se donnent dans le quartier.
Okay.
Puis ça, Communaction, c'est situé au centre multiloisirs Sherbrooke, coin Fairmont et Gare.
Ah, c'est vrai, c'est pas Kingston, oui. Mm.
C'est proche de Kingston.
C'est ça. Puis tu sais, c'est quand même une belle expérience, justement. Là. Je pense que ça fait grandir tant le membre que la personne qui est accompagnée, en fait, là, justement. Mm.
OK. Ouais.
Ouais. Dans ce cas-ci, c'est l'organisation qui va rembourser le 50 sous du kilomètre pour la membre de la corderie qui va rendre le service. Okay. Puis c'est la corderie qui donne les heures à corderie aux gens qui s'impliquent dans ce projet-là. Puis les gens qui en bénéficient n'ont pas besoin d'être membres pour avoir ce service-là.
OK.
Donc, ils peuvent nous contacter. Ouais. Quel est le numéro de téléphone, Léa?
Oui. Mais je pense que tu allais dire quelque chose avec Claude.
Oui, c'est pas vraiment important. Dans le sens, tout à l'heure, j'ai vu Tremplin 1630. Il organise une marche dans le bois appelée Shinrin Yoku. J'ai juste dit ça tout à l'heure. Fait que là, ben là, on marche dans le bois, mais quand on sort du bois, il faut prendre le transport.
Oui.
Fait que c'est quoi le numéro de téléphone pour
joindre? Notre numéro de téléphone, on se rejoint aussi par courriel, mais en tout cas,
okay.
Le numéro de téléphone, c'est le 819-821-7162. Puis c'est le poste 7, en fait.
Okay.
Ça, c'est le numéro de la corderie.
Okay. Ouais. Fait que, donc, si des gens ont besoin d'aide pour aller faire l'épicerie, on peut contacter ce numéro.
Ah oui, si les gens veulent rendre des services.
Exact.
Oui, c'est ça.
Peut-être répéter le numéro de téléphone.
Oui. Donc, le 819-821-7162, poste 200.
Et on peut laisser un message parce que c'est une boîte vocale qu'on consulte régulièrement et ensuite on rappelle les gens. Donc, c'est normal que ça arrive sur une boîte vocale.
Exact. Et on ne répondra pas, c'est ça.
Est-ce que vous avez écrit un article à ce propos-là dans le journal local?
Dans le journal Le Regard, on a écrit, un article. Le journal Regard et le journal du quartier d'Ascot. On a écrit un article à ce sujet-là.
OK. Bon, bien, félicitations, c'est une belle initiative. Oui. Puis la corderie, on va en parler plus en septembre, peut-être une sorte de chronique mensuelle. Donc...
Oui, exactement, c'est parce que, tu sais, il y a 1300 membres quand même, donc, puis il y a beaucoup de services qui sont échangés, qui fait que ça amène des gens qui ont moins de sous à pouvoir échanger ensemble, puis...
La corderie, il y en a à peu près 11 au Québec?
Oui, puis, 11
ça fait peut-être 25 ans que ça existe, puis à la corderie, c'est la plus grosse... C'est la plus grosse accorderie, en fait, à Sherbrooke. On fait beaucoup de projets, justement. Là. En faisant des projets comme ça, c'est comme ça qu'on réussit à joindre plein de gens. Puis les gens sont contents. Là,
la deuxième partie de ce projet-là, qui est sur 4 ans, c'est des ateliers de cuisine en lien avec la sécurité alimentaire, animés par des citoyens dans différents quartiers. Et on a un atelier par semaine. Là, ça va prendre relâche pour l'été. Puis, ça va dépendre des citoyens, quelles recettes ils ont envie de partager avec les autres qui vont venir participer. Ensuite, les gens mangent ensemble, puis ils repartent s'il reste quelques surplus.
Exact.
Puis, c'est ça. Puis, pas besoin de s'inscrire, il suffit de s'y rendre. Le matériel est fourni, tous les ingrédients sont fournis. Puis, pour plus d'informations, il y a la page Facebook de la corderie. Puis, si les gens veulent recevoir l'infolette de la corderie, ils peuvent nous appeler au même numéro qu'on a dit tantôt.
Là. OK. Donc, cours de cuisine, ça veut dire aliments. Est-ce qu'il y a des jardins? Êtes-vous connecté avec des jardins? Ou...
Exactement. Dans le cadre de ce projet-là, il y a aussi l'été, c'est des ateliers de jardinage qui prennent le relais. Donc, au Baobab, café de quartier, et dans le jardin communautaire Marie-Reine. Puis là, c'est des ateliers d'initiation au jardinage. Puis ensuite, de l'été, ça peut être des ateliers sur les insectes ou bien sur des manières d'engraisser le terrain, tout ça. Donc... Puis à l'automne, ça va reprendre les ateliers de cuisine.
OK. J'ai eu une entrevue sur le jardin communautaire Marie-Reine avec Julie Di Tommaso et Nicole Bizier l'autre jour. C'est le 7 avril, si vous l'écoutez ça, dans un balado là, de l'émission À nous le futur.
Oui.
Alors, Mme Nadjagé et Ea Toupin.
Exact.
félicitations pour ce projet-là de l'entraide à propos de nourriture et de transport.
Oui, exact.
Fait que je vous remercie beaucoup, à moins que vous ayez autre chose à ajouter pour conclure.
Ben, merci beaucoup, Claude. Puis, en tout cas, ça va nous faire plaisir de recevoir les demandes ou les offres, bien sûr.
Oui, exact.
Ouais.
OK. Ben, merci et bonne journée.
Bye-bye.
Merci à toi.
Bonjour. OK, de retour à nos futurs. Je remercie Mme Nadjagé et Ea Toupin tout à l'heure. Et aussi, je remercie Mme Nathalie Papillot, avec qui j'ai eu une entrevue tout à l'heure. Et... Comme vous savez, ça a mal commencé. Je veux vous expliquer pourquoi, comment c'est arrivé. Moi, j'avais mis une feuille sur le système de son ici. Là. Puis la feuille cachait un curseur qui était à zéro. Alors, c'est pour ça que je n'entendais pas Mme Papillot. Puis j'ai eu de l'aide d'Alexandre qui travaille ici à CFAC. Je le remercie beaucoup. D'ailleurs, Alexandre, il est membre du groupe Endorphine. On a entendu sa chanson tout à l'heure, Croire. Alors, je continue et pour vous parler d'un livre de Nancy Todd avec la préface de Serge Mongeau. Tu sais, Serge Mongeau, tout à l'heure, j'ai parlé de lui, là, un livre sur la paix. Ça s'appelle « Éco-design, des solutions pour la planète » du New Alchemy Institute. Voici un peu ce dont ça parle, Landau nous dit ça. Là. Peut-être fallait-il un choc tel que la crise écologique actuelle pour nous amener à modifier nos modes de vie et nos façons de penser. Tout à l'heure, je lisais ça, puis je regarde quand est-ce que ça a été écrit, c'est en 2007. On pourrait croire que c'est en 2026. Tu sais. Et quel choc! Nombreux sont ceux et celles qui craignent maintenant qu'à moins d'un changement de cap rapide et résolu, les effets destructeurs des activités humaines sur la biosphère ne soient irréversibles. Pourtant, il existe des alternatives viables pour réduire notre empreinte écologique. Depuis des décennies, des chercheurs de divers horizons observent, inventent et testent différents moyens de permettre aux humains de combler leurs besoins fondamentaux tout en respectant leur environnement. Nancy Todd est l'une de ces pionnières. Son récit, empreint d'humour et de sensibilité, fait vivre la naissance de l'éco-design. 40 ans de découvertes inspirées par les forces étonnantes de la nature. Ce livre montre qu'il est possible de changer notre impact sur la planète et donne des outils pour y arriver. Reste à savoir pourquoi nous ne pensons pas à l'action. Ça, c'est d'autres livres. Tu sais. Les Bourguignons ont écrit un livre comme ça, « Pourquoi nous ne pensons pas à l'action ?» Les Bourguignons, ce sont des microbiologistes qui sont passionnés de l'étude des sols. Alors, vous pouvez procurer ce livre-là, sans doute, à la librairie Appalaches ou d'autres, là, locales, les Deux Sœurs, par exemple, ou bien à la bibliothèque Eva Sénécal, sinon, bien, tu sais, par prêt entre bibliothèques, c'est souvent possible. Alors, il y a un autre livre que j'aimerais vous parler, c'est Marie-Monique Robin, c'est « Sacrée croissance ». Nous sommes en 2034. Désormais journaliste et réalisatrice retraitée, Marie-Monique Robin rédige ce livre qui raconte comment les humains ont réussi, 20 ans plus tôt, à éviter l'effondrement de leur civilisation. Cela grâce à un étonnant sursaut collectif survenu le 14 avril 2014 après la publication du 5e rapport du groupe d'experts intergouvernemental de l'évolution du climat, c'est le GIEC, annonçant les terribles catastrophes provoquées par le réchauffement climatique. Alors, c'est une uchronie prospective, donc. Fait que c'est ça, tu sais, Marie-Monique Robin, ça s'appelle « Sacrée croissance ». Et à la page 279, je vois qu'il y a 4 piliers du BNB, c'est le bonheur national brut, qui, à ses yeux, devrait remplacer le PIB. En 2008, le 5e roi avait créé la Commission du bonheur national brut, ça c'est d'au bout de temps. Et le BNB est sous-divisé en 9 domaines. Le bien-être psychologique, la santé, l'éducation, l'utilisation du temps, la diversité culturelle, la bonne gouvernance, la vitalité des communautés, la diversité écologique et le niveau de vie. On dit aussi que la caractéristique du BNB, c'est que nous accordons exactement la même valeur à la richesse matérielle et non matérielle, m'avait expliqué Tsoki Zhangmo, la statisticienne qui dirigeait le sondage. On lui demande, considérez-vous que le Bhoutan est le pays du bonheur? Bon, elle dit qu'en 2013, le bonheur national brut avait dépassé les frontières du Petit Royaume. Le 19 juillet 2011, à l'instigation de Jigme Tinley, l'ONU avait approuvé la résolution 65-309 intitulée « Le bonheur, 2 points, vers une approche holistique du développement ». Soutenu par 67 pays, le texte affirmait que le bonheur est un objectif humain fondamental et une aspiration universelle, mais que le PIB, par nature, ne tient pas compte de ça. T'sais. Fait que voilà, c'est vraiment un livre super. Ça s'appelle « La sacrée croissance » de Marie-Monique Robin. Et puis, moi qui vais chercher ça à la bibliothèque, j'en trouve un que je ne cherche pas, mais qui s'appelle « Régénération ». Ça s'appelle, en sous-titre, là, c'est « Surmonter la crise climatique en une génération ». C'est de Paul Hawken. Alors, je vous lis Landau. C'est super, vous pouvez aller chercher ça à la bibliothèque Eva Sénécal après que moi, je l'aurai ramené, là, dans une couple de jours. On dit qu'après le succès de Drawdown, paru en France en 2018, aux éditions Actes Sud, Paul Hawken et son équipe reviennent avec « Régénération », dans lequel ils précisent leur ambition, 2 points, qui est d'atteindre l'inversion du réchauffement planétaire en une seule génération. Grâce à une approche transversale originale et à la mobilisation d'un vaste champ de disciplines, ils ressentent ça, une myriade d'actions de terrain qui participent toutes d'un mouvement émergent de régénération du climat, du vivant, des sociétés humaines, bref, de la Terre. Des projets qui explorent entre autres les concepts de biorégion, de ville zéro carbone, de ville de quart d'heure, d'architecture décarbonée, d'énergie géothermique ou encore d'agroécologie. Associant les luttes sociales aux luttes environnementales, l'objectif de Paul Hawken est avant toute chose d'améliorer les conditions de vie des plus démunis, et l'auteur offre ainsi une vision globale de problèmes et de solutions à mettre en œuvre, faisant de régénération le livre de référence qui détaille l'ensemble des leviers culturels, sociaux, économiques, techniques et scientifiques à solliciter pour relever le plus grand défi du monde. Alors, allez voir https://regeneration.org. Alors, vraiment, puis il y a un avant-propos de Jane Goodall, tu sais, super important, Jane Goodall, qui est une scientifique qui a travaillé avec les primates il y a plusieurs décennies et qui a écrit un livre sur l'espoir. Alors, moi, je donnerais à ce livre-là une cote genre B+. C'est une blague parce que j'imite les gens de Popcorn de l'Infini dans leur, tu sais, dans leur émission. Ils donnent des cotes à certains films. Alors, une fois de temps en temps, je vais donner une cote à un livre. Là. Je dis B+, puis ça pourrait être A, en tout cas. Fait que, attention à vous tous. Je vous souhaite un beau futur, une bonne semaine. Et je termine l'émission avec ça. Mon nom est Claude Saint-Georges. Je vous remercie. Et à bientôt.